Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Bonjour, trois chroniqueurs, trois films. Les chroniqueurs, vous les connaissez, Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borde et Bernard Medioni. Bonjour à
bonjour,
vous, trois.
Bonjour,
Christophe.
Trois films donc, Priscilla, Moi capitaine et Iris et les hommes. Alors Priscilla de Sophie Coppola, le film raconte la vie de la petite Priscilla de 1959 à 1972, de la rencontre à la 14 ans, et comme va nous le dire Dominique Borde, plus vraiment jeune fille mais pas encore femme.
Et donc elle a 17 ans.
La rencontre avec Elvis Presley, alors militaire, jusqu'à leur séparation en passant par leur flirt, puis leur mariage, leur enfance, la biopic en somme. Écoutons la bande-annonce.
Bonjour, je m'appelle Terry West. Et vous ?
Priscilla Beaulieu.
Vous aimez Elvis Presley ?
Bien sûr, comme tout le monde.
Alors qu'est-ce qu'ils écoutent, les jeunes, ces temps-ci ?
Bobby Darin et Fabian. Et vous ?
Quelles sont exactement vos intentions, Monsieur Presley ? Vous avez un tas de femmes qui se jettent littéralement à votre cou. Pourquoi, ma fille ?
Monsieur, j'ai beaucoup de sympathie pour votre fille. Elle est très mûre pour une fille de son âge.
21 ?
Désolé, mon cœur, c'est 22. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour elle. Des cheveux noirs et plus de mascara.
Je sais pas trop si j'aime.
Comment ça, tu sais pas trop si t'aimes ?
Il n'est pas comme tu l'imagines. Tu sais, il y a plein de rumeurs qui circulent sur vous deux. Est-ce que t'as quelque chose à cacher ?
Absolument rien à cacher, merde !
Il me faut une femme capable de comprendre que ce genre de choses peut arriver. Tu veux être cette femme ou pas ?
Je te quitte pour avoir une vie à moi.
Je te quitte pour avoir une vie à moi. Beaucoup de médicaments, beaucoup d'infidélité, finalement pas mal de perversité. Je vous écoute, Dominique.
Oui, oui, beaucoup de perversité, mais beaucoup de déception aussi. Parce qu'on nous raconte une histoire d'amour entre les lignes d'une star hyper connue, bien sûr, Elvis Presley. Hein, et tout est axé sur Priscilla. Alors on est un petit peu frustré tout de même de cette jeune femme qui est très bien vouée d'ailleurs, mais qui est une romane américaine ordinaire. Elle a 17 ans, elle est amoureuse, puis désenfantée, vaincue par le désordre d'un personnage hors norme. Certes, on voit l'univers d'Elvis Presley, cette villa luxueuse, et d'assez mauvais goût, d'assez tape à l'œil. Donc c'est tout l'univers de Presley où est perdue une petite fille amoureuse qui petit à petit est déçue par son compagnon. Bientôt au début il est amoureux, puis petit à petit il y a la drogue, il y a l'alcool, il y a les copains, il y a les aventures. Donc elle se lasse de lui et elle va finir par quitter Graceland. Et d'ailleurs le parti pris de Sofia Coppola, ça a été vraiment de s'axer uniquement sur elle et sur la déception d'une femme amoureuse. Bon, c'est ça le film.
Mais
c'est un peu mince.
Finalement, c'est difficile de se faire un prénom pour Sofia Coppola.
Voilà, et là, alors on savait que Presley avait épousé la fille d'un de ses commandants, comme ça. Ça, on le voit en filigrane, mais il y a très peu de choses. C'est vraiment, là, c'est un film féministe, dans le sens où, fait par une femme sur une femme, et où les hommes n'ont aucun intérêt, même le personnage... l'acteur qui joue Jacob Errol, donc qui joue Elvis Presley, lui ressemble vaguement, mais sans plus. Elle, en revanche, fait pas mal, Carly Spackney. C'est une romance édulcorée, une douce descente aux enfers. Pour voir, il y a des scènes très courtes, des face-à-face assez feutrées. Et la vision apocalyptique d'un monde luxueux, sophistiqué et d'assez mauvais goût. C'est l'envers de la célébrité, au fond, qu'on nous montre. Ça peut être intéressant, c'est un peu lassant, moi ça ne m'a pas passionné du tout. C'est un luxueux paquet cadeau qui ne renferme pas grand-chose, sinon le malaise et le désespoir. Voilà.
Marie-Noël ?
Oui, le film joue sur les contrastes, en effet, entre un monde de stars très glamour à l'extérieur et à l'intérieur, une prison. les coulisses de l'intérieur de ce monde, c'est une prison où tout n'est qu'ombre et ennui. Les contrastes de lumière sont très marqués entre l'extérieur lumineux et à l'intérieur, on est toujours dans des derrière des rideaux fermés, dans des chambres obscures, dans la pénombre. Il y a un chromatisme très très ocre.
Mais tout est propre. Il n'y a pas un journal qui traîne. Hein.
Non, absolument.
C'est très propre, très léché.
Elle a encore moins à faire. Elle n'a strictement rien à faire dans ce palace. Ni à lire, bien qu'elle soit à l'école, ni évidemment à faire le ménage, parce qu'on va s'occuper de travaux de décoration ménager. Elle n'a strictement rien à faire qu'à être assise sur les canapés et quand même à se faire les ongles et à mettre des fossiles et à se faire coiffer, à essayer des robes, parce que Elvis la transforme en poupée Barbie. C'est bien ça. Ben, voilà, c'est une autre Barbie, une autre version de Barbie.
Oui, mais Barbie, c'était drôle.
Oui, Barbie, c'est
oui, là, on s'ennuie. Elle s'ennuie.
Et on s'ennuie aussi.
Avec elle. Absolument. Le film est fait pour ça, pour qu'on ressente cet ennui. Alors, on s'ennuie, en effet. Oui. Cela dit, Sofia Coppola a un talent assez subtil et sensible qui passe par les plans de détail, toujours, de l'intimité, de la toilette, d'une chose. C'est assez évocateur et évocateur de ces années-là. C'est-à-dire cette jeune fille qui est fille d'officier, est tout à fait bien élevée, comme une jeune bourgeoise de l'époque. Et c'est touchant, on ne s'étonne pas qu'elle soit perdue dans un monde de stars droguées, clinquants, où on se trompe, où on se...
Alors moi j'ai bien aimé l'idée d'Elvis et ses musiciens qui sont un peu comme des brigands, qui rentrent de tournée comme les brigands.
Et tout à coup la maison, cet immense palace... devient animé, voilà, bruyant, luxueux, et tout le monde parle et commente, etc.
Des brigands partent de la caverne.
Voilà, exactement.
Mais
ça.
C'est un peu l'univers qu'avait Johnny Hallyday aussi. Quand on regarde bien, il avait une villa un peu comme ça, et des copains, les beuveries, c'est un peu la même chose.
Alors ça, quand même, la mise en scène de Sofia Coppola le rend bien, je trouve, et l'atmosphère de ces années, et ce côté, en effet... Ce hiatus incroyable, le fait qu'un père officier, avec toutes les formes, on est vraiment dans la chanson d'Adamo. Et Elvis vient lui demander, vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille? Et le père, non sans réticence et précaution, finit par dire oui. Et alors là, c'est le malheur absolu pour sa fille chérie.
Bernard.
Oui, moi je serais beaucoup plus négatif que mes camarades. Je trouve que c'est raté. Je trouve que c'est un film franchement raté. Vous avez la mise en scène, ça je serais d'accord avec Marie-Noël. Il y a une mise en scène très léchée, appliquée, qui a quelques attraits, en effet. Encore d'accord avec quelque chose qui a été dit, elle essaie de montrer la complexité de cette relation entre une jeune fille bien élevée et innocente et une vedette à la popularité dévorante.
Et le contraste physique est impressionnant, parce que lui, il est très très grand et elle est toute petite. Oui. Et quand on les voit marcher dans la rue, on sent le contraste.
C'est vrai, mais je suis d'accord avec Dominique, qui ne lui ressemble que lointainement. Ouais. C'était déjà le cas dans le film sur Elvis Presley, qui s'appelle Elvis de Baz Luhrmann, sorti l'année dernière, qui était autrement plus réussi d'ailleurs.
C'était le point de vue d'Elvis, c'est ça la différence.
Oui, mais comme dans le film Elvis, d'ailleurs, la déchéance physique en 73, on la voit pas du tout. Non. Et même au début des années 70, où il s'empâte terriblement, là, pas du tout. Pas du tout, du tout. Et puis, et là aussi, je rejoindrai Marie-Noël sur une chose qu'elle a dite sur la prison. Et c'est vrai que ça s'est plutôt bien montré. Sofia Coppola a une conviction, c'est que Priscilla Beaulieu s'est enfermée elle-même dans une prison en se laissant aveugler par les illusions d'une passion avec une vedette promise à la consécration. Et ça, c'est plutôt bien montré. Bon, oui. Maintenant, mes deux camarades ont parlé de drogue, mais attention, ce ne sont que des médicaments.
Absolument.
Et d'ailleurs, on le voyait déjà dans Elvis, il n'a jamais pris ni d'ecstasy, ni d'héroïne.
Il y a une scène de LSD.
Oui, une avec du sucre. Oui, c'est vrai. Mais Elvis Presley n'est pas connu pour ça. Il était il abusait des médicaments, mais pas du tout pour les autres. Mais sinon, la narration est prise d'une regrettable léthargie. Qu'est-ce qu'on s'ennuie ? Là, je m'éloigne un peu de Marie-Noël. Je trouve que le contexte social, politique et plus grave, musical, est complètement laissé de côté. Alors oui, elle peut pointer un doigt accusateur sur Elvis Presley, mais elle ne montre jamais son talent. Elle ne montre jamais ce qu'il a apporté à la musique. Elle le montre comme un rustre. Moi, Marie-Noël l'a dit, mais cette absence de lumière, ça m'a gêné tout le film. Et on ne dit pas, mais ils ne peuvent pas rajouter deux ampoules qu'on y voit un petit peu clair quand même. Ce n'est pas difficile. Et puis, les amis d'Elvis Presley, c'est des silhouettes. Valétudinaires, complètement éphémères et qui n'ont strictement aucun intérêt. Quelques repères chronologiques en plus, on sait un moment qu'on est en 70, mais le concert où il est avec sa veste de cuir et son pantalon en cuir, c'est un concert de 68 qui était très connu, qui avait été passé à la télévision. Ça, c'est le... On n'a pas d'année, on n'a pas de repère, et c'est vrai que c'est très gênant. Et puis, on peut faire le parallèle avec un autre film d'épouse 2 qui suscite le même ennui, c'est Jackie, avec Nathalie Portman. Même ennui, on veut axer sur le personnage féminin, mais là aussi, c'est une femme d'origine française, comme Jackie Kennedy. Elle est peu épanouie, comme Jackie Kennedy, et au cinéma, on s'ennuie, comme pour Jackie. On s'étonne aussi que, bien sûr, ça s'arrête en 72 ou 73, mais elle a fait, ça a été une vedette, Priscilla Beaulieu avec Dallas. C'était Jenna Wade, elle était soupçonnée d'avoir tué Reynaldo Marchetta. Elle a une popularité considérable à ce moment-là. Elle parodie son personnage dans Y a-t-il un flic pour sauver la reine. Elle a une robe de vamp, elle dégringole un escalier. Et ça, elle ne le montre pas, elle n'y fait strictement aucune allusion, et c'est très gênant. Je finirai en disant qu'on le voit dans le film, la vice Presley lui offre plusieurs petits revolvers, plusieurs armes à feu, sans doute pour rappeler que le film de Sofia Coppola tombe de calibre en Priscilla.
Priscilla.
Oui. Alors ensuite, nous passons à Moi, capitaine, de Matteo Garrone. On a Seydou et Moussa, qui sont deux jeunes Sénégalais de 16 ans, qui décident de quitter la terre natale pour rejoindre l'Europe. Alors Garrone nous fait suivre le grand chemin de la migration à travers les dunes du Sahara, les dangers de la mafia et de la mer. On ne sait pas ce qui est pire, de la violence de la nature ou de celle des hommes. Les migrants sont les jouets de tant d'éléments qui se prennent pour des dieux. C'est d'une cruauté désarmante, finalement. Et c'est un film qui prend à la gorge et en même temps qui semble nécessaire. Mais voilà, j'aimerais entendre votre point de vue, Dominique.
On n'entend pas de...
Ah si, on lance la bande-annonce, évidemment.
Assalamualaikum sunu mami ñu ngi leen nuyu bu baax da dañuy waja dem ben voyage dañu ñëwon fi pour sakku ci ay ñaan
da ragal wax ko
dama ragal kay dama
ragal c'est ça avoula ki tu mas nga nek stade mag
yow li sa xel mi kan moko ci def gis nga fi ma nek fi la bëgg nga nek fi wax li ñi noy mag yow
dana yaakar ni europe mo gëna fess bu fekke da ngeen bëgg dé dem
À quel âge?
Moi j'ai 16 ans.
Et il est où ton cousin?
On l'a attrapé quand on était dans le désert.
Mais li tax nga non wax bu ñew tamit li la xolal li ma déwé Sénégal mo mo gëna
bu tuddi ma ngi ni bu ko ba ngi ni bu yex seneñ ba paré boy
si jamais tu conduis le bateau et t'emmènes toi et ton ami
je suis pas capable de conduire ces grands bateaux là il y a beaucoup de personnes il y a des vies il y a des enfants
c'est nous ah lo xew
le mal là du monde sur sa mère dama bëggal ñu sa yaay ne ko mu bal ba ak dama nam sa yaay mu bal ba ak ka yalla ta
capitano Matteo Garrone, qui est quand même un cinéaste très très sérieux et qui réussit, il avait fait un très beau film sur la mafia, je me souviens.
Oui, c'est lui, Gomorra, voilà. Qui avait été.
Et donc là, quand il prend,
remarqué, oui.
Quand il prend à bras le corps le problème des migrants, c'est forcément sérieux.
Oui, oui, c'est forcément, c'est presque un documentaire d'ailleurs.
Dominique,
c'est vraiment
oui.
Très très documentaire. Ben, c'est, il suit à la trace ses deux frères. Qui veulent rejoindre l'Italie, la terre promise. C'est un voyage au bout de l'enfer pour gagner un paradis hypothétique, finalement, mais c'est vraiment une épreuve. C'est une épreuve, c'est l'épreuve pour un rêve qui se réalisera sans doute pas, parce qu'on n'a pas trop d'illusions sur leur destination et sur ce qui les attend. Voilà, c'est assez bien montré. C'est entre violence, menace de mort, chantage. Les passeurs sont horribles.
Horrible.
Puis qui profitent de la misère et qu'eux sont les victimes, bien entendu. Sont des victimes naïves, sont des victimes qui n'ont pas eu le choix. Enfin, ils ont eu le choix de partir parce qu'il n'est pas le choix de rester, finalement. C'est plutôt ça. Hein. Donc, c'est violent, c'est parfois pathétique. C'est vraiment un style. Alors, docu-fiction, c'est un peu galvaudé comme terme, mais c'est vraiment ça. On sent qu'il a voulu garder un style documentaire. Contrairement à Gomorra, où il allait vers une fiction qui nourrissait un propos, et un propos gênant, un propos spectaculaire. Là, il s'en tient vraiment à ces deux personnages et à leur odyssée dramatique, quoi. Voilà, c'est des victimes de la misère du... Alors, peut-être qu'après avoir vu un film comme ça, on regarde les migrants d'un autre...
Voilà. Lieu.
C'est ça.
Voilà.
C'est sans doute le but du film.
Oui, quand on passe...
Il y a un côté pédagogique.
Ouais, quand on passe le long du périphérique et qu'on voit ces migrants sous des tentes,
voilà.
Surtout quand il fait si froid en ce moment, on
ou
pense...
Ou de la chapelle, c'est
ouais, ou de la chapelle, et ben, ouais. On pense quand même à cet itinéraire qui est absolument incroyable. Marie-Noël.
Oui, j'ai trouvé que c'était un film beau et terrifiant, qui donne chair justement à ce phénomène migratoire qui est, comme le dit Matteo Garrone, le drame de notre siècle. Et donc il s'inspire d'une histoire vraie. C'est très documenté en effet, mais je ne dirais pas du tout que c'est un documentaire. Parce
non, mais
que
c'est documenté comme un documentaire, c'est présenté.
C'est documenté parce que ça part d'une histoire vraie et qu'il l'a beaucoup travaillé et qu'il est parti de l'étude vraiment de la réalité de ce qu'avaient vécu divers migrants. Mais c'est pas du tout un documentaire au sens où c'est vraiment, il y a une construction dramatique très forte et même mélodramatique volontairement. C'est fait pour...
Parce qu'il y a la mère aussi qui est très
voilà, alors moi, tout de suite, la très maman. Belle, c'est... Le film commence dans l'ambiance sénégalaise, très, très colorée, très chaleureuse. Ils sont pauvres peut-être, mais il y a beaucoup d'amour qui circule et beaucoup de vie. Et alors quand Dominique dit qu'ils n'ont pas le choix de partir, je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'ils sont, ils choisissent vraiment, alors qu'ils sont sévèrement mis en garde par leur mère et par un autre homme qui leur dit « Non, vous ne savez pas ce qui vous attend en Europe. Vous serez dans la rue, vous perdrez tout, vous n'aurez plus aucun contact et aucune... Donc ils sont sévèrement avertis. Et moi, tout de suite, je ne sais pas si c'est le cas des garçons, mais moi, j'ai épousé tout de suite le point de vue de la mère et tout le temps, je l'ai gardé ce périple. Et je me dis, mais est-ce pas... On est, vous savez, comme quand on est naïf dans Blanche-Neige et que on approche la pomme, le public populaire a envie de dire « La mange pas, ma petite, la mange pas !»
Mais
moi, j'étais comme ça. « Ne pars pas, ne partez pas, ne partez pas !» Et donc, j'avais ce point de vue de la mère tout le temps. Les épreuves qu'ils subissent sont en effet terrifiantes. Mais dès le début... Dès le début, ils n'ont pas quitté le Sénégal, qu'on leur prend leur argent pour faire des faux passeports, ils traversent le Niger, tout, à chaque fois, on les embarque dans une camionnette cahotante à travers le désert, il y a quelqu'un qui tombe de la camionnette, tout le monde s'en fiche, sauf... C'est Dou et Moussa qui ont alors pour la première fois le cœur serré, qui se rendent compte de ce qui se passe.
Et dans le désert, on a les cadavres qui sont là.
Voilà,
il y a des traces des précédents.
Ils traînent à un moment, il y a une dame qui s'effondre sur le chemin. Et c'est d'où le jeune fils de sa mère absente et malheureuse s'attarde auprès de cette dame. Il ne veut pas la laisser mourir, c'est pas possible. Son cœur lui parle, lui dit c'est pas possible. Mais il est obligé parce que la caravane s'en va.
Il
va perdre. Il est à un moment, au dernier moment, il est obligé de suivre. Et ensuite, ils arrivent en Libye. Et là, c'est pire que tout. Ils sont torturés. C'est abominable. L'exploitation
abominable.
Des passeurs. Et ensuite, alors, il y a cet épisode héroïque où il doit piloter un bateau parce que les passeurs s'arrêtent là et on voit tranquillement les migrants en mer
une vieille coque rouillée.
Lui, aucune expérience, ne sachant pas nager. Et qu'on oblige à devenir capitaine de ce bateau et qui y met toute son humanité. Donc c'est aussi un roman d'apprentissage, de formation, où on voit un adolescent plein de rêves et d'illusions au départ et qui a l'insouciance de son âge, devenir un être humain responsable et,
Bernard.
Et généreux.
Oui, moi je trouve que c'est un film honorable, mais j'aurais quand même d'authentiques réserves sur le film. Alors, ce qui est très beau, c'est l'histoire d'amitié entre les deux. Moi, je suis tout à fait sensible à ce sujet au cinéma, et entre ces deux petits, ça apporte de la densité, de la sensibilité au film. La réalisation, bon, Matteo Garrone sait tenir une caméra, les plans maritimes, notamment vue d'avion, et puis il y a une très belle scène dans un cimetière d'adieu aux aïeux, avec des arbres, c'est très dépouillé, en même temps ça saute aux yeux. Ça, c'est vrai que c'est plaisant. Alors, c'est un témoignage d'une irréductible éloquence sur les souffrances promises à ces migrants qui tentent de tenter leur chance, et ils vont avoir ces souffrances en raison de ces individus et ces passeurs sans conscience qui exploitent leur détresse avec indécence. Et ça, c'est très très bien montré. Ce que j'ai préféré dans le film, pour ma part, ce sont les intermèdes oniriques, avec à chaque fois un personnage qui vole.
Je pense que c'est pas, si vous permettez, que c'est pas seulement onirique, il y a aussi la magie.
Oui, mais on voit quand même, il se réveille. Hein,
oui, mais il y a les sorciers.
Ben, peut-être, en tout cas, intermède magique, si vous voulez. Maintenant, c'est trop long. C'est trop long. Là, il y a Princesse Erika dans le film qui chantait trop de blabla dans les années 80. Et au début, je trouve qu'il y a trop de blabla. L'épisode sur le bateau, je trouve, n'est pas tout à fait convaincant et trop long. Il est complaisant. L'épilogue sur l'eau manque un peu de souffle et de brio. Les deux personnages principaux exceptés, je trouve que beaucoup de protagonistes ont peine à exister. On aurait aimé savoir celui qui est blessé. Est-ce qu'il va être guéri ou est-ce qu'il va être amputé ? Et je suis d'accord avec Dominique. Quelles sont les authentiques intentions du metteur en scène ? Est-ce que c'est simplement un plaidoirie en faveur de ces destinées humaines tributaires de cette longue chaîne ?
Il y a un côté pédagogique. Oui.
On peut se poser la question. En tout cas, ces voyageurs, malgré eux, se trouvent ici livrés à moult humiliations, vous l'avez dit, et leur échappé de réunir dès lors Brimade et l'Odyssée.
Eh bien voilà, il nous reste 2 minutes, je pense qu'Iris et les hommes va passer à la trappe. Vous trouviez très rapidement que c'était pas un grand film.
Non, c'est pas un bon film, on sait pas très bien si c'est Iris dans les Cévennes ou Antoinette et les hommes, ça se confond parce que Laure Calamy est interchangeable et elle a un petit peu le même genre de rôle. Dans le premier, elle était poursuivie par un amant maladroit, là elle court après les hommes pour oublier son mari un peu absent. Il y a peu de choses, c'est un flacon vide ce film en fait. Voilà.
Je trouvais que c'était formidable parce qu'Iris est dentiste. Dentistes ne sont plus ce qu'ils furent. Aujourd'hui, la profession s'est féminisée. Oui. Des femmes jeunes, audacieuses et tendres qui ne font plus mal du tout et prennent soin de vous. Donc ça valait le coup de faire cette ode aux dentistes. C'est un film moderne et contemporain. Et je trouve la scène de table où les deux filles ados imitent leur prof et ce qu'elles apprennent, c'est-à-dire apprendre à dire non. Et la mère s'insurge en disant il faut apprendre à dire oui. C'est un joli contre-pied envers notre époque. Et ça, j'ai trouvé que c'était...
Et puis il y a le ballet, a le ballet qui copie un peu La La Land.
Et le ballet finit, formidable, voilà, La La Land, où on dit les hommes pleuvent, il y a des hommes à pleuvoir.
C'est à peu près tout.
Voilà, mais je trouve que dans cette période un peu difficile de wokisme et de féminisme, ça fait du bien de voir un téléphone portable qui devient un véritable personnage jusqu'au dialogue de la fin qui explique à peu près tout. Merci à tous les trois. Merci aussi à Cédric Cobat pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Alpeuch, Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Il fait froid, prenez soin de vous et des autres. Alors, je vous embrasse et on va aller se réchauffer dans des salles obscures de cinéma. Il y a quand même pas mal de films à voir.